Bonjour, bonjour et bienvenue sur Fréquence 7. Vous écoutez le journal des rencontres, la 4e édition en direct des rencontres des cinémas d'Europe et en direct du studio 103 du Centre Le Bourgneau, et où on a posé nos valises, vous le savez, nos valises et nos micros pendant une semaine. Venez nous voir au studio 103 du Centre Le Bourgneau. Et pendant cette demi-heure, eh ben, on vous propose un aller-retour en Finlande avec Irmeli De Barle, qui est une grande connaisseuse du cinéma finlandais, qui a collaboré avec nombre de cinéastes finlandais comme Aki Korismäki, oui. Et avec Olivier qui va mener cette interview. Merci. En forme d'abécédaire, bien sûr.
Comme d'hab.
Et derrière le micro, pour nous mitonner tout ça, Nico. Salut Nico.
Et salut, et bonjour aussi à Sylvain qui a la technique au studio.
Et bonjour Sylvain, mais oui, puisque tout cela ne peut fonctionner que grâce à deux techniciens et Sylvain. Salut Sylvain.
Salut.
Alors,
eh bien voilà.
Entrons dans le vif du sujet finlandais.
Irmeli De Barle, je suis évidemment ravi de vous revoir, puisque ce sont des revoyures. J'ai le souvenir d'une interview en 2019. Il y avait il y avait Carte Blanche Finlande. Vous étiez venu présenter trois films, si je me souviens bien. Il y avait One Last Deal de Klaus Aro. Il y avait Aurora de Mila Tervo et Miami de Zaïda Bergrot.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Voilà.
Et bonjour, Iva Paiva.
Et l'année dernière, nous nous étions encore vus au cinéma avec les jeunes, je crois, et c'était Any Day Now.
Oui, Ensi Lumi en finnois.
Ensi Lumi, voilà.
Ensi Lumi, La Première Neige.
La Première Neige de Ami Ramzan. Donc, c'est grâce à vous que j'ai commencé à me constituer une petite filmographie finnoise, on va dire, comme ça, et faire un abécédaire qui commence par A, comme Aki, Korismäki, naturellement. Comment ne pas commencer cet abécédaire par Aki, Korismäki? Ici, aux rencontres, on projette Les Feuilles Mortes, le dernier d'Aki Korismäki, pour moi un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dans son œuvre, un achèvement incroyable, et puis peut-être un chef-d'œuvre tout court, peut-être qu'Aki Korismäki rentre dans la catégorie des classiques du cinéma avec ça, quelque chose comme ça. Si vous, qui le connaissez bien, si vous deviez donner quelques caractères pour définir Aki Korismäki pour quelqu'un qu'il connaîtrait mal, qui n'aurait pas vu Le Havre.
Oui, mais ce n'est pas facile de parler en disant Aki est ceci ou cela, parce qu'Aki est très multiple. Pour moi, j'ai l'impression que je regarde Les Feuilles Mortes, Kuolleet Lehdet en finnois. J'ai l'impression que c'est comme un grand chef qui, avec les mêmes ingrédients, il arrive à créer toujours un plat différent. Ouais. Parce que quand on voit Les Feuilles Mortes, il y a un peu tous ces films aussi qui passent quelque part. Mais c'est jamais tout à fait la même chose. Mais il y a toujours les mêmes thèmes qui sont là. Ouais. Pour Aki, je crois que l'une des plus importantes, en fait, ce qui est le plus important dans la vie, c'est la solidarité. Mmh. Et la solidarité qui est devenue assez rare dans l'époque que nous vivons. Mais lui, il veut toujours souligner justement cela. Et aussi, l'amour est toujours là aussi, quelque part.
Oui, l'engagement politique et l'amour. Et l'amour quand l'engagement politique ne suffit pas. Parce qu'il y a une sorte de... On le voit chez d'autres cinéastes comme Guy Didion, Ken Loach
qu'on a...
On voit... voilà.
On a en face l'affiche des Old Oak, le dernier film de Ken Loach. Mmh.
Et on sent chez tous ces cinéastes qui croient beaucoup aux luttes sociales, qu'il y a une espèce de fatigue et il n'y a guère que l'amour qui peut prendre le relais, on a l'impression.
Oui, parce que je crois qu'à qui il est déçu, la politique, il pense que réellement la politique ne peut pas changer. Et il pense qu'un film politique, ça ne peut pas arrêter la guerre. Mais dans presque tous ces films, il y a ce côté, même si on ne peut pas les définir, en fait, dans quel moment ça se passe, il y a toujours quand même... ce n'est pas le seul film où il y a l'actualité. Oui. L'actualité est toujours là.
Oui. Aki Kaurismäki, en particulier dans Les Feuilles Mortes, me fait... Bon, il y a plus que des clins d'œil qui renvoient à Charlie Chaplin. Et effectivement, il y a un rapport là aussi entre la tendresse, le destin individuel des gens, et puis l'écrasement social et économique. Les deux sont bien articulés dans les images d'Aki Kaurismäki.
Oui, et ce qu'on remarque aussi, c'est que même si ces gens n'ont pas beaucoup de chance dans la société où on vit, il y a cette dignité qui est toujours très présente. Ouais. Et ce ne sont pas du tout les gens qui sont tellement résiliés parce qu'ils essaient quand même de lutter contre, mais il faut se regrouper pour pouvoir lutter contre cette société qui nous entoure aujourd'hui.
Dans Les Feuilles Mortes, on sent l'univers industriel écrasant d'une part et d'autre part des issues de secours, dont le cinéma, justement. Il y a une rencontre du héros et de l'héroïne devant un cinéma, et on sent que le cinéma est une issue de secours.
Oui, quelque part, c'est vrai. Justement, il faut avoir... il y a la musique aussi, il y a le cinéma, la musique, peut-être, qui nous permettront de survivre dans ce monde cruel.
Et donc Aki Kaurismäki, lui, pour vivre dans ce monde cruel, il a décidé de se partager un petit peu entre la Finlande et le Portugal, m'avez-vous expliqué ?
Oui, en hiver, quand il fait trop froid en Finlande, alors il se sauve avec sa femme et ses chiens au Portugal. Et en été, évidemment, la Finlande montre ses meilleurs côtés. Oui. Alors il retourne. C'est toujours le départ en automne au Portugal, en voiture, parce qu'ils ne voudront jamais mettre leurs chiens dans la soute des avions. Alors il faut aller... C'est assez loin, la Finlande et le Portugal, oui. Mais ils prennent un cargo de Helsinki en Allemagne, et après il faut traverser
l'Europe.
oui, l'Allemagne, la France, l'Espagne, pour aller au Portugal. Et au printemps, c'est le retour, comme les hirondelles, ils retournent en Finlande.
Et c'est, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais c'est son chien, Alma, dans Les Feuilles Mortes.
En fait, dans tous les films, normalement, ce sont les chiens de Aki et Paula, sa femme, Paula Oinonen, qui est peintre. Et tous les tableaux que vous voyez toujours dans les films d'Aki Kaurismäki sont peints par sa femme. Alors, ils ont toujours au moins deux. Il y a eu des périodes où ils avaient trois chiens. Évidemment, Alma et leur chien aussi, on la retrouvait dans les rues de Portugal. Et elle a été vraiment très mal traitée, parce que même aujourd'hui encore, elle a une balle dans la colonne vertébrale.
Mon Dieu.
Et quand ils l'ont adoptée, elle était très très mal, elle tremblait, n'osait pas regarder dans les cieux, et petit à petit elle s'est calmée, et maintenant elle est adorable, cette Alma. Mais il y avait un problème dans ce film, parce que elle s'appelait Alma, mais il y a Alma Pösti aussi qui joue dedans. Alors comme il y avait deux Alma, il fallait changer le nom de l'actrice, en fait, comme ça elle est devenue Ansa pendant le tournage.
D'accord.
Et Ansa, si on le traduit, c'est un prénom finlandais, mais en fait, Ansa, ça veut dire un piège. Je ne sais pas s'il a pensé à ça, c'est moi qui le dis.
Oui, hein. Peut-être. En tous les cas, nous voilà avec d'autres A. Donc, Ansa, Aki, Alma. Alma qui joue bien finalement à sa manière, malgré son existence difficile jusque-là.
Elle a même remporté un prix à Cannes.
Non.
Pendant le festival de Cannes, au mois de mai.
Un prix d'animal.
Oui.
Mais c'est merveilleux.
Palme d'oc.
Palme.
La palme d'ogue.
La palme.
Mais Laika l'avait déjà remporté aussi. Laika qui a joué dans les films d'Aki pour L'homme sans passé. C'était palme d'ogue pour Laika.
D'accord. Bon, alors, on saura dire dans les refuges d'animaux que s'ils veulent s'en sortir, pour eux aussi, c'est le cinéma et c'est Aki Kaurismäki.
On apprend des choses. Moi, je retiens juste que pour les rencontres des cinémas d'Europe, il faudrait essaimer et peut-être proposer. Alors, nous, on n'a pas de prix, justement. Tout est dans la rencontre, mais peut-être des rencontres animalières.
On pourrait le prendre comme thème de focus, peut-être, pourquoi pas. Mais pas de prix, non.
Plus qu'un
pas,
thème. Non.
Je voulais finir avec...
Des rencontres animales.
Je voulais finir avec Aki, enfin finir, pas finir, mais il y a quelque chose quand même qui m'a étonné. Il travaille toujours avec de la pellicule.
Oui, tout à fait. Ça doit être très rare aujourd'hui.
J'imagine. Et donc du coup, ça a une conséquence, c'est que évidemment les prises sont plus précieuses.
Oui, et normalement il n'y a qu'une.
D'accord.
Parfois deux, et mais ça, c'est rare.
D'accord. Donc il y a un côté précieux, presque pictural, hein, finalement, un peu, puisque on qu'une seule prise, et alors ça simplifie le montage, je suppose.
Oui, c'est très rapide le montage de ces films. Normalement, c'est peut-être 10 jours.
D'accord. Mmh.
Je peux juste, s'il n'y a qu'une seule prise, voire deux prises, il y a tout un travail en amont. Il y a beaucoup de répétitions qui se font.
Absolument pas. Il ne laisse jamais répéter les acteurs. Il interdit les répétitions. Mais évidemment, il y a toute l'installation avant. Et comme il travaille toujours avec les mêmes personnes, c'est un peu une famille. Alors, c'est un peu... On entre dans un Akiland quelque part, c'est un peu son univers, même pas un peu, complètement, c'est complètement, son univers, ouais. Ouais. Sur tous les plans, parce que c'est lui qui fait tout. Et si on improvise, il n'y a que lui qui a le droit d'improviser, mais ce qu'il est, vraiment, il est très précis et il demande vraiment, c'est la direction de regard des acteurs, ça, et il les dirige. Et souvent, il montre même devant. Comment faire.
Oui, d'accord. Ouais.
Mais il n'y a pas de... on ne répète pas.
J'ai lu une interview de son chef opérateur photographe.
Timo Salminen, oui, depuis voilà, toujours. Ouais. Timo Salminen, il est là depuis toujours. Et en fait, c'est le fils de Ville Salminen. Son père était... D'abord, il était acteur. Après, il a réalisé beaucoup de films en Finlande. Il était réalisateur.
Oui.
Timo, qui habite aussi au Portugal... Mais lui, il habite à Sintra, à côté de Lisbonne. Oui. Par hasard, je ne sais pas pourquoi les Finlandais partent vivre au Portugal.
Moi, j'ai une petite idée. Mais ça me fait penser à ce que vous disiez au début de la lettre A comme Aki, à savoir que c'était un cuisinier qui, avec les mêmes ingrédients, faisait des films différents. Son chef opérateur lui montre un décor où un mur est peint en bas, en bleu, en haut, en jaune. Et puis, pour la pièce suivante, il demande à Aki comment je fais. Il lui dit, tu fais l'inverse. Tu mets le bleu en haut et le jaune. Non, bah, j'ai trouvé ça assez extra en termes d'économie de moyens quoi, dans la création.
Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi producteur de ses films. Alors, il dit que c'est aussi l'une des raisons qu'il faut...
Économique.
Parce que je pense que si les films sont tellement longs aujourd'hui, c'est qu'on tourne trop de choses.
Tout à fait.
Et lui, comme chaque image... Chaque plan est dans sa tête avant le tournage. Alors, c'est très précis. Et même si les acteurs ne répètent pas, par exemple, les éclairagistes sont les gens formidables. Chez lui, il y a par exemple Olivaria qui est toujours là. Il est aussi réalisateur lui-même. Et tout est très... Les installations, ça prend du temps. Ouais. Mais une fois, quand on tourne... Mais juste quelques fois avant, moi, j'ai participé aux 4 tournages. J'étais là tout le temps. Alors, j'ai vu sa façon de travailler. Alors... juste avant, il peut dire « Ah, encore 2 secondes », et il peut juste déplacer un objet de centimètres quelque part, parce que tout est très, très réfléchi. Hein.
C'est une peinture, c'est sûr que...
Il est comme un peintre, il est comme un poète, je ne sais pas, c'est pas seulement... il crée son univers, et je pense que si on y adhère, on y entre... on comprend justement, tout est décalé, mais si on reste à l'extérieur de son univers, on doit penser que c'est complètement froid. Et la façon de parler des acteurs et actrices, on trouve pas ça très naturel. Mais en Finlande, on ne parle pas comme ça non plus. Hein.
Évidemment. Évidemment. Mais c'est ce qui fait de son film, en particulier les Feuilles mortes, un film tellement achevé en grand et dans le détail, quoi. Je voudrais passer à la lettre B, comme bonheur. J'ai entendu, hier ou avant-hier, une interview de Denis Arcan, le cinéaste de Montréal, et qui disait que, donc il y a beaucoup décrit la société canadienne contemporaine avec ses difficultés, sa décadence, hein, évidemment, le déclin de l'Empire américain, etc. Et il plaisantait sur le fait que le Canada, comme la Finlande, était toujours en tête des classements des nations les plus heureuses. C'est pour ça que j'ai pris B comme bonheur. La Finlande serait-elle un pays où l'on est plus heureux qu'ailleurs, comme au Canada? Et Denis Arcan disait, oh, on dit qu'au Canada on est heureux parce qu'il ne se passe rien. Donc on regarde la neige tomber, puis après on la regarde fondre. C'est comme en Finlande finalement, etc. Bon. Alors, moi, avec ma toute petite expérience du cinéma finlandais, j'ai pas l'impression que ça dégage une telle impression de bonheur. Bon, Olimaki, il est quand même exploité par son entraîneur. Ils veulent absolument en faire un héros dans le stade olympique d'Helsinki. Bon, c'est douloureux à regarder, hein, de ce point de vue-là. One Last Deal, c'est aussi l'histoire d'un monsieur qui, avant de finir sa carrière, voulait faire une dernière affaire en ayant repéré un tableau. Miami, c'était l'histoire de deux sœurs, c'était aussi un petit peu difficile. Et puis, j'ai noté deux films où, au contraire, on voit des migrants qui veulent venir s'installer en Finlande, parce qu'il y a des avantages, visiblement. Je pense à Aurora, hein, qui rencontre un Iranien qui se marierait bien en Finlande pour y rester. Et puis Any Day Now, alors là, qui raconte l'histoire d'une famille qui va être expulsée. Ça peut arriver à n'importe quel jour maintenant, Any Day Now, première neige. Alors, la Finlande, c'est un pays où il fait bon vivre, avec la meilleure éducation du monde, ou bien c'est un pays qui est triste, je ne sais pas.
Pour moi, je ne sais pas trop parce que je vis à Paris depuis 1976. Alors, je vois tout un peu de l'extérieur.
Justement.
Et je ne sais pas du tout comment on fabrique ces statistiques. Je dis fabriquer, là. Parce que, est-ce que les Finlandais sont heureux? Je pense qu'il y a les moments qu'ils sont heureux. Quand ils vont, par exemple, au sauna, ils adorent le sauna. Ou peut-être quand ils chantent le karaoké. Et c'est pour ça que j'avais proposé le paradis du karaoké, ouais, qu'on va voir ici aussi, même cet après-midi.
Et à 16h30.
Samedi, oui, à samedi, il y a une autre projection. Ça, c'est un documentaire, je trouve, formidable. Parce que les Finlandais, en fait, souvent, on imagine que nous sommes scandinaves, ce qui est faux, parce que c'est un petit peuple qui vient d'Europe centrale, et notre langue est aussi quelque chose qui nous différencie beaucoup, parce que c'est une langue, le finnois. En fait, en Finlande, nous avons deux langues officielles, le finnois et le suédois, et il y a un peu moins de 6% de la population qui parle aujourd'hui le suédois, parce qu'il ne faut pas oublier que la Finlande est indépendante seulement depuis 1917. Oui. Alors, ce n'est pas si loin. Avant, c'était une partie de la Russie, auparavant, c'était une partie de la Suède. Et je pense que la population suédophone en Finlande, ils m'ont toujours paru un peu plus heureux que nous. Parce que moi, je suis finnoise et finlandaise, parce que ma langue maternelle est le finnois. Et nous, nous sommes assez mélangés, parce que c'est un carrefour quand même entre l'Est et l'Ouest. Et comme c'était un peuple nomade qui venait d'Europe centrale, en fait, je pense qu'on a colonisé un peu les Lapons pour les pousser vers le Nord. Et il y a les forêts et les lacs, il y a 200 000 lacs et des forêts. Et la nature est un élément très, très important, je pense, pour les Finlandais. Et comme il y a tous ces milliers de lacs, il y a les petits chalets au bord des lacs, il y a un sauna. Alors, en été, il y a la plupart des gens, ils vont dans ces petits chalets. Et peut-être, je ne sais pas si le bonheur est plutôt là qu'en ville.
Mais d'ailleurs, vous parlez, à juste titre, puisqu'il passe pendant les rencontres de Karaoke Paradise, où on voit peut-être la vérité de la chose, à savoir que je doute que le bonheur soit une affaire, soit l'affaire d'une nation, c'est l'affaire d'individus qui voilà, c'est ça, c'est des petits moments pour des individus. Et Karaoke Paradise montre bien ça. Autant de personnages de ce documentaire, autant de destins personnels, de difficultés propres à vivre. Il y a la personne qui est malade, il y a le monsieur qui aimerait bien rencontrer quelqu'un, et la personne qui organise les karaokés elle-même, on sent bien qu'elle prend son destin en main et elle le vit en faisant chanter les gens comme ça, etc. Donc effectivement, des destins personnels, c'est ça qui est mis en scène dans ce documentaire.
Oui, et justement, Kekaoris Maki avait vu ce documentaire, et la dame qui organise les soirées de karaoké, qui est dans le Karaoke Paradise, là, alors elle, Evie, en fait, elle joue aussi dans le film d'Aki, dans Les Feuilles Mortes, dans le bar karaoké, oui. C'est elle.
Oui.
Et Einari Pakkanen, qui est le réalisateur, le paradis de karaoké, il était très fier. Parce que comme j'organise mon petit festival à Paris, la Finlande en trois films, oui. Normalement, depuis 15 ans,
Paris Médicis,
Reflet Médicis, Reflet oui. Médicis, oui. Ah, c'était le dernier week-end du mois de septembre et Einari Pakkanen est venu parce que j'avais le paradis de karaoké. Alors il m'a dit, j'étais très fier que Aki Kaurismäki a pris Evie pour
bien
son
sûr,
film.
Hein.
Et il a raconté comment il a cherché pendant plusieurs années ses personnages pour son film. Et justement, il a voulu prendre les personnages qui vivaient karaoké de manière très différente.
Oui.
Et il est resté très ami avec Kari, le karagiste, qui cherche l'amour,
oui.
Et rencontrer quelqu'un. Ils sont devenus amis, ils sont toujours en contact. Et sinon, il y avait Tony, qui est très, très timide. La timidité, ça fait aussi peut-être partie d'une des caractéristiques. Les Finlandais sont assez timides.
C'est leur côté luthérien.
Oui, certainement. Et aussi, comme on est indépendante depuis peu de temps, je veux dire, c'est notre histoire est quand même très différente. Par exemple, par rapport à la Suède, qui n'a jamais vraiment, depuis très longtemps, je ne dis jamais, depuis longtemps, n'a pas connu la guerre.
Oui.
Mais les Finlandais se sont battus toujours pour leur indépendance.
Héroïquement, d'ailleurs, contre la Russie.
Oui, et là, ils sont en train de fermer la frontière est, parce que les Russes envoient tout le temps les clandestins sans papier.
Pour déstabiliser la Finlande.
Oui, et peut-être aussi pour punir cette adhésion à l'OTAN et pour déstabiliser politiquement, c'est sûr.
Donc, des destins personnels concernant le bonheur.
Ah oui, et il y a Laura qui a perdu son bébé dans paradis.
Hein,
oui. Oui, elle chante pour oublier, son chagrin énorme. Et il y a Elina qui a la maladie de Parkinson.
C'est ça, ouais.
Et il a choisi justement les personnes qui vivent le chant d'une manière très, très profonde, mais d'une façon, à cause des raisons différentes. Mais ça donne quand même un peu les raisons pourquoi le karaoké est important. C'est la timidité, justement, recherche du bonheur, oublier son chagrin, ou oublier sa maladie, quelque part, pour essayer de survivre.
Ben, comme ça, on a épuisé ma lettre C, parce que c'était C comme chanson. Alors, voilà.
Toujours un coup d'avance.
Mais finalement, j'avais noté de souligner le caractère de remède de la chanson, et je pense en particulier à cette femme qui a subi une intervention chirurgicale lourde pour pouvoir réinnerver son corps, pour pouvoir retrouver du mouvement. C'est très, très... Et puis, alors, il y a un autre personnage dans le... Évidemment, j'ai pas réussi à fixer les noms. Il y a une jeune femme en particulier. Il y a d'autres personnages qui vivent le karaoké presque comme de la compétition. Enfin, c'est la Star Academy, quoi. Ils ont presque des niveaux professionnels dans le chant, quoi.
Oui, c'est Laura qui, elle participe parce que il y a ces compétitions qui existent et c'est elle qui a perdu son bébé et elle a envie de participer pour certainement pour oublier et pour penser à autre chose. Et Elina qui a la maladie de Parkinson, c'est vrai qu'elle subit cette opération très très lourde.
C'est très angoissant, hein, et on sent que la chanson c'est un peu une planche de salut, hein, d'une certaine manière.
Oui, ça m'a fait penser aussi quand Elina chante Stromer, là, dans le film.
Oui, Stromer,
alors,
oui.
Ça m'a fait penser au film d'Aki, j'ai engagé un tueur, qu'on a tourné à Londres avec Jean-Pierre Léo, et on avait Joe Stromer qui était dans le film, là.
Ah bon?
On a une scène comme ça, et je l'ai un peu connu, et c'était une personne extraordinaire.
Ah oui, c'est un grand créatif, ouais. Le clash, c'est quelque chose d'énorme. Ah ben... Enfin, dans ma culture musicale, c'est essentiel, le clash. Alors, musicalement, pour moi, la Finlande, vous allez sourire, mais pour moi, la Finlande, c'est Sibelius, Finlandia, quoi. Enfin, voilà. Et vous m'avez parlé d'une compositrice, me lancer dans la prononciation des noms, Kaija Anneli Saariaho.
Oui, Kaija Saariaho, oui.
Saariaho.
Anneli, c'est son deuxième prénom, mais Kaija Saariaho, malheureusement, elle vient de nous quitter au mois de juin. Et...
J'aurais aimé que vous nous la présentiez comme vous me l'avez présentée un peu, parce que ça a l'air... C'est une musicienne dont je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai pas non plus une grande culture, mais enfin, disons que je n'ai jamais entendu parler. Et ça m'a l'air d'être quelqu'un d'important, qui a écrit un opéra, qui a été représenté au Met, entre autres. Donc, vous pouvez nous donner envie d'aller chercher ce...
Kaija Saariaho est arrivée à Paris dans les années 80 à IRCAM. Et c'est la musique contemporaine, électrique.
Boulez, etc.
Oui. Et en fait, elle a composé beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, en 2012, un opéra qui s'appelle L'amour de loin, qui était une commande de l'opéra de Bastille. Et c'est Amin Malouf qui a écrit le livret. Et il y a eu 14 ou 15 représentations différentes de L'amour de loin.
Oui.
Et au Metropolitan, c'était incroyable parce que ça a été transmis dans peut-être plus de 100 pays. Et je n'ai pas pu aller à New York, mais je l'ai suivi dans une salle de cinéma à Paris. Et c'était incroyable parce que...
En plusieurs langues, non?
Non, L'amour de loin, c'était juste Amin Malouf qui avait écrit.
Oui.
C'est après Innocence qui était en plusieurs langues.
Oui.
Et pour le Metropolitan, c'était quelque chose d'extrêmement rare parce qu'un opéra composé par une femme... Moi, j'ai presque envie de parler de Kaija comme compositeur, parce que je trouve que quand on dit compositrice, c'est un peu
malheureusement.
Oui, quelque part, oui. Alors, et il y a eu... C'est un monde très masculin, la musique classique.
C'est ce qui reste le plus masculin dans la création à l'heure actuelle.
Oui, et comme c'était dirigé par une chef finlandaise, Susanna Malki, qui est venue, en fait, Susanna est arrivée à Paris justement pour l'incontemporain de Pierre Boulez. Elle a été engagée pour diriger et après elle est restée à Paris. Elle a beaucoup travaillé avec Kaija Saariaho. Et pour moi, c'était un moment incroyable quand j'ai vu sur l'écran que Kaija et Susanna arrivaient sur la scène, deux Finlandaises,
au Met.
Même y penser, ça me met en larmes, parce que tellement c'était incroyable. Rarement, j'ai été fière de mes amis, mais là, c'était quelque chose d'incroyable.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, Kaya, après, elle a, c'était Aix-en-Provence, le festival qui lui a commandé un opéra, et c'était Innocence. Et Innocence. Là, il y a très personnages qui parlent et chantent les langues différentes.
D'accord.
Et c'est un opéra qui a, quelque part, on peut dire, presque bouleversé, parce que c'est le sujet très contemporain, c'est une tuerie dans une école, mais on ne le montre pas sur la scène, mais c'était, alors, ça a été déjà présenté au moins à Londres, Amsterdam, et ça va être certainement présenté partout, parce que c'est que pendant le Covid, en fait, ça a été annulé. Il y a eu les répétitions, mais juste avec le piano. Mais je crois qu'il y a 2 ans, ils l'ont pu présenter. C'était pas cette année, mais l'année dernière.
Oui. Dès comme documentaire, on a encore un petit peu de temps. Dès comme documentaire, un documentaire a été tourné sur cette...
Oui,
femme.
Oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Rita Rask qui a eu cette chance d'interviewer Kaya les 2 dernières années et ce documentaire a été présenté pour la première fois en France. Je l'ai traduit et sous-titré à la Finlande en 3 films Reflet Médicis là, à la fin du mois de septembre. Et il y a eu beaucoup de collaborateurs, il y avait les musiciens qui sont venus pour le voir, pour rendre hommage certainement aussi à Kaya Saariaho.
Bien sûr, qui était disparue. Oui,
oui, qui vivait à Paris, elle habitait à Paris.
Mmh.
Et c'est un documentaire, j'espère qu'on va pouvoir le voir aussi ailleurs.
Vous vous occupez, et c'est pour ça que j'avais consacré ma lettre D au documentaire, vous vous consacrez beaucoup à... principalement un documentariste finlandais, Markku Lemuskallio.
Oui, très bien, Lemuskallio, ah, ouais. C'est très bien.
Et son épouse Anastasia Lapsui. Et donc, vous êtes occupé de la restauration d'une douzaine de ces documentaires.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance pendant la période du Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de malchance aussi, mais on a trouvé un peu d'argent pour justement numériser et restaurer 11 films de Markku Lemuskallio et Anastasia Lapsui, qui est nénette,
voilà.
Et qui eux, ils vivent maintenant en Finlande. Mais Markku Lemuskallio, il a fait des films depuis les années 80, d'une 20aine de films, et on les a vus quand même un peu partout en France. Il n'est pas très connu, mais ce n'est pas seulement les documentaires, il y a aussi un côté un peu de fiction. Il n'y a qu'un film. Ah si, il y a peut-être 2 qui ont été distribués en salle, parce qu'il y a eu les 7 chants de la toundra en 2000, et il y a eu peut-être Neko, la dernière de ma lignée, qui est un peu l'histoire d'Anastasia Lapsui en Sibérie du Nord.
Oui. Oui, une histoire effroyable de la façon dont les Russes soviétiques ont voulu investir cette région occupée par les nénettes pour récupérer le gaz, j'imagine.
Oui, et ça continue. Hein.
Ça continue.
Ça continue, parce que les nénettes, c'est un petit peuple nomade. Et malheureusement, sur ces terres, il y a du gaz naturel. C'est pour ça qu'on essaye de les mettre un peu dans les réserves. Et il y a Salehard, la ville qui est la plus importante, mais c'est un peuple qui a toujours vécu avec leur reine. Ils sont nomades et ils mangent du poisson cru dans les lacs en été.
Vous m'avez dit que vous aviez hésité à vous y rendre quand même.
Non, mais je n'ai pas accepté leur invitation le renne est utilisé vraiment complètement, évidemment, la peau pour les vêtements et pour leur habitation. Mais sinon, ils mangent aussi tout à l'intérieur quand on les ouvre et boivent du sang et tout ça. Alors, je ne me sentais pas vraiment prête pour cela.
Surtout qu'il fallait utiliser des hélicoptères russes en plus.
Ah oui, qui tombent assez souvent, hein. Qui ne sont pas de vraiment les modèles très récents.
D'accord.
Vous avez un goût de l'aventure un petit peu...
Limité.
Limité, oui.
Tout à fait.
Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps pour... Non, ça va malheureusement devoir s'arrêter maintenant, cet entretien. J'ai été évidemment ravi de l'avoir une fois de plus. Sophie, tu veux dire à nos auditeurs ce qui se passe
Oui. Bah déjà, ouais. Quelle chance. Merci beaucoup. Mais vous aurez la chance, vous aussi peut-être, de rencontrer Irmélie de Barle à 17h45 au Centre Le Bourneau, à la suite justement de la projection de l'un des films finlandais qui est présenté ici pendant ces rencontres dont vous avez parlé, Karaoke Paradise.
Je vous conseille de venir à cette rencontre des rencontres parce que Irmélie a plein de choses à nous apprendre.
Plein de choses à nous apprendre. Donc à 16h30, rendez-vous pour Karaoke Paradise au Centre Le Bourneau, suivi juste après de la rencontre avec Irmélie. Et si tout ça vous a donné envie, vous restez au Centre Le Bourneau parce qu'à 18h30, eh ben c'est à vous la parole, à vous la chanson, c'est à vous de chanter. Il y a un karaoké qui est organisé au bistrot des rencontres avec entrée libre. Oui, Irmélie, j'espère que vous y serez.
Je ne suis pas sûre.
Bon, on verra
à 18h30.
Après une petite bière ou un petit verre de vin.
Je compte sur vous.
Oui, sans doute. Donc à 18h30, karaoké, un impromptu au bistrot. Et puis on continue puisque le prochain journal des rencontres à 17h, eh bien vous aurez la joie également d'entendre Jean-Michel Bertrand qui vous présente le troisième film de sa trilogie sur les loups, Vivre avec les loups. Donc ce sera à 17h en direct sur Fréquence 7. Et vous pourrez le rencontrer, lui, Jean-Michel Bertrand, à 22h au navire, à la suite donc de la projection de son film Vivre avec les loups. Ce sera à 20h30 au navire. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Tu veux rajouter quelque chose?
Moi, ça va. Merci, Irmélie de Barra.
Kitos, Nakemin.
Kitos.
Merci, au revoir.
Kitos, merci beaucoup. Merci Olivier, merci Irmélie, merci Nico et merci Sylvain. Ouais.